Vous écoutez France Culture, il est midi et demi. Le journal vous est présenté par Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.
Et bonjour à toutes et à tous. Rentrée politique à haut risque pour François Bayrou. Le Premier ministre résistera-t-il à la censure sur son prochain projet de budget? Il tiendra cet après-midi une conférence de presse sur fond d'appel à bloquer le pays le 10 septembre. Rentrée compliquée également. Radio France avec un appel à la grève illimité à partir d'aujourd'hui. Avec notre invité, on s'intéressera à cette enquête sanitaire lancée à partir d'aujourd'hui pour estimer quelle part de la population de La Réunion a été infectée par le chikungunya. Puis l'actualité à l'étranger. Ce matin, des frappes israéliennes sur un hôpital situé dans la bande de Gaza ont fait au moins 15 morts, parmi lesquels 4 journalistes. L'occasion de décrypter la stratégie de l'État hébreu consistant à discréditer le travail des journalistes sur place. Enfin, avec nos envoyés spéciaux, on se rendra en Ukraine, où là-bas aussi l'intensification des attaques ne plaide pas franchement le R1 pour un règlement rapide du conflit. Le compte à rebours est lancé, même si le maître des horloges lui a récemment encore renouvelé toute sa confiance depuis le palais de l'Élysée. François Bayrou ne peut plus se permettre de jouer la montre à mesure que le tic-tac de la rentrée sociale se fait plus sonore. Ses jours semblent plus que jamais compter à Matignon. La cure d'austérité de 44 milliards annoncée cet été a fini par rassembler contre elle une grogne généralisée tout le week-end. Écologistes, insoumis, communistes qui tenaient leurs universités d'été se sont dit prêts à lancer la riposte. Menace de censure, mais aussi appel répété à rejoindre le mouvement du 10 septembre. Quant aux centrales syndicales, même si elles hésitent encore à descendre dans la rue, elles n'entendent pas être laissées pour compte. Stéphane Robert, bonjour.
Bonjour Thomas.
Face à ce vent de révolte, le Premier ministre a donc choisi de prendre la parole. Il s'exprimera cet après-midi lors d'une conférence de presse, manière de prendre les Français à témoin, l'occasion aussi sans doute d'en appeler à nouveau à leur esprit de responsabilité. Pour autant, jusqu'à quel point François Bayrou a-t-il encore les moyens, Stéphane, d'affronter cette colère?
François Bayrou sait qu'il n'a face à lui que des vents contraires. Les menaces de censure sont venues tout au long du week-end des partis de gauche, mais aussi ce matin du Rassemblement National, par la voix du député Julien Odoul sur France Info.
Très clairement, dans les annonces qui sont proposées par M. Bayrou, les comptes ne sont pas là, et s'il en reste là, il sera censuré.
Et même le rapporteur du budget, le député Liotte Charles de Courson, a mis en garde le Premier ministre sur France Inter.
En l'état, si vous voulez, le projet de budget, à travers ce qu'il avait annoncé au mois de juillet, est invotable.
François Bayrou sait qu'il est politiquement minoritaire. Par conséquent, pour contourner le problème, il veut essayer de convaincre directement les Français qu'il n'y a pas d'autre choix, que son budget est le seul possible. C'est d'ailleurs déjà ce qu'il a tenté de faire tout au long de l'été, en publiant sur YouTube des vidéos sur une chaîne qu'il a appelée FB Direct.
Bonjour à tous.
François Bayrou Direct.
Si vient le moment que j'ai appelé la falaise, si vient le moment où nous n'aurons pas d'autre solution que d'être coincés par les agences de notation et au fond par les prêteurs, alors il n'y aura aucune autre possibilité que des sacrifices terribles. Nous ne pouvons pas garder les yeux fermés et laisser les choses aller.
Au cœur de l'été, ces vidéos n'ont pas rencontré le succès escompté. Elles n'étaient vues que par quelques milliers de personnes. Il va donc tenter de renouveler l'exercice via les journalistes en organisant cet après-midi une conférence de presse. Mais là encore, cet exercice pédagogique pourrait rapidement trouver ses limites. Les premiers sondages d'opinion ce matin montrent que les mesures budgétaires du Premier ministre sont très majoritairement rejetées. La suppression de 2 jours fériés notamment rejetée par plus de 80% des personnes interrogées.
Merci Stéphane Robert. Comme un air décidément de fin de vacances, plus qu'une semaine avant que tous les élèves de métropole ne retrouvent le chemin de l'école. À Mayotte, en revanche, la rentrée scolaire se faisait dès ce matin. Du moins pour ceux, évidemment, pour qui le retour en classe était possible, car 8 mois après le passage dévastateur du cyclone Chido, tous les établissements endommagés sont loin d'être réparés. Ce que la ministre de l'Éducation a pu d'ailleurs constater par elle-même, Elisabeth Borne était en déplacement dans l'archipel la semaine dernière, et pourtant, elle n'a pas fait d'annonce particulière en termes de moyens, ce qui a déçu forcément une bonne partie de la population. À cela s'ajoutent désormais les soupçons de corruption révélés par la Chambre régionale des comptes sur le financement alloué aux travaux de reconstruction. Et en attendant, Hakim Kasmi, c'est donc une fois de plus aux enseignants et aux élèves qu'il revient de s'organiser et plus encore de s'adapter.
Si 90% des élèves du premier degré auront une scolarité normale avec toutes leurs heures de cours, cela ne sera pas le cas partout, car certaines écoles restent très endommagées, voire détruites, comme à Kungu ou Mamoudzou, qui ont été très touchées par le cyclone Chido. Dans certains cas, il faudra donc pousser les murs, avec des rotations pouvant aller de 2 à 3 groupes d'élèves par jour, reconnaît la rectrice de Mayotte, Valérie Debuchy.
On a 8% qui vont avoir entre 10 et 20 heures, et il reste à peine 2% d'élèves qui vont avoir entre 4 et 10 heures. Et c'est vraiment sur ces écoles-là qu'on va accentuer l'accompagnement et l'aide des municipalités pour d'abord aller plus vite sur l'aide de l'État, parce que il y avait encore des instructions de dossier pour des financements que les communes attendent. Et du coup, on organise même dans ces écoles ce qu'on appelle une triple rotation. C'est-à-dire qu'ils viennent pas forcément tous les jours, où ils viennent tous les jours, mais seulement, par exemple, 2 heures ou 3 heures le matin. Et ça tourne.
Des conditions d'apprentissage qui ne seront pas sans conséquences au niveau pédagogique, souligne Ousseni Zeidou, co-secrétaire départemental de la FSU-SNUPP de Mayotte.
Les enfants ne vont pas forcément apprendre quelque chose, ça c'est clair. C'est une garderie. Cette situation, si ça existait, peut-être ça pourrait exister une semaine maximum. Mais ici, c'est toute l'année que les collègues vont devoir comment vivre cette situation-là.
Enfin, concernant le second degré, la rectrice estime que 100% des collégiens et des lycéens pourront être accueillis en cours, ce qui laisse sceptiques les syndicats qui indiquent qu'une partie de leurs collègues sont partis enseigner à La Réunion en métropole.
Et direction à présent justement La Réunion, avec plus de 54 000 cas confirmés, 28 morts et 585 hospitalisations. La Réunion a connu cette année sa deuxième plus grande vague de chikungunya après l'épidémie historique de 2005. Or, ce matin a été lancée une étude pour estimer quelle part de la population a été infectée. Pourquoi est-il si important de faire cette mesure alors même que l'épidémie ne circule presque plus dans l'île? Pour le savoir, invité de la rédaction aujourd'hui, Fabien Touillot, délégué régional de Santé publique France à La Réunion. Bonjour monsieur.
Bonjour monsieur.
Qu'est-ce que cette étude doit permettre donc de savoir de plus en somme que ce que les données dont nous disposons déjà nous permettent de dire?
Alors, merci. Donc les données de surveillance sur lesquelles on se base pour suivre l'épidémie pendant qu'elle est en cours reposent sur l'activité médicale. Seulement, il y a des personnes asymptomatiques du chikungunya et il y a des personnes qui, à un certain stade de l'épidémie, ne consultent plus ou ne se font plus prélever. Ce qui fait que les données de surveillance en cours d'épidémie ne permettent plus d'avoir un regard total sur l'épidémie. Donc à l'issue des épidémies, pour savoir le nombre de personnes identifiées, on mène des études ad hoc. D'une part pour documenter l'ampleur réelle du phénomène qu'on vient de vivre, et ensuite après pour se projeter sur des risques d'épidémies ultérieures.
Concrètement, comment va se dérouler cette enquête? Vous allez proposer, je crois, une analyse d'immunité à des patients lorsque ils se présenteront à un laboratoire médical pour d'autres examens, c'est bien cela?
C'est exactement ça. Donc à partir du moment où une personne, à compter d'aujourd'hui, se voit prescrire par son médecin une analyse pour un bilan sanguin, si elle se rend sur l'un des 23 sites de prélèvement partenaires répartis sur toute l'île, quel que soit son âge et quel que soit son sexe, et qu'elle est résidente réunionnaise, elle se voit proposer une analyse sérologique. Donc la personne, elle, va recevoir son résultat et connaître son statut d'immunité. C'est son avantage à elle à participer à l'étude. Et nous, côté Santé publique France, on va pouvoir, après quelques traitements statistiques, calculer une immunité collective de la population.
Combien de patients attendez-vous et surtout à partir de combien vous pourrez établir un échantillon représentatif de l'ensemble de la population réunionnaise?
Alors, on attend une participation de 1500 personnes. C'est l'objectif qu'on s'est fixé. L'inclusion des patients se terminera lorsque cet objectif sera atteint.
Tout l'enjeu, on l'a compris, c'est de mesurer donc si la population est collectivement immunisée. Est-ce que l'on sait déjà quelle proportion de personnes infectées par le virus permettrait donc d'atteindre cette immunité collective?
Alors, c'est pas une science tout à fait exacte. Déjà, on peut peut-être se tourner vers la donnée historique de 2005-2006, qui a montré que, à l'issue de cette épidémie, 38% des personnes étaient immunisées contre le chikungunya et que ça avait suffi à protéger la population réunionnaise de 20 ans d'épidémie. Donc ça, c'est ce que nous a enseigné l'histoire. Et enfin, dans un deuxième temps, une fois qu'on aura produit cette donnée, on a établi des liens avec des équipes de modélisation pour essayer de se projeter et essayer d'analyser le risque plus finement. Mais déjà, produisons cette donnée Comparons-la au seuil historique de séroprévalence.
Peut-être vous pouvez nous rappeler combien de temps les anticorps développés par les personnes qui ont guéri du chikungunya permettent-ils de les protéger de la maladie ?
Alors c'est une immunité dans la très grande, dans la majeure partie de la population, c'est une immunité à long terme, voire à vie. C'est ce qui est documenté dans la littérature scientifique. Après, il est décrit dans la littérature à la marge quelques cas où des personnes peuvent être réinfectées par le chikungunya au cours de leur vie. C'est un phénomène qui est en cours d'étude à La Réunion. On apprend au cours des épisodes épidémiques, mais c'est vraiment un phénomène à la marge. C'est une immunité à long terme.
Une dernière question, jusqu'à quel point l'interprétation des résultats de votre enquête va permettre de déterminer les stratégies à mettre en œuvre contre cette maladie ?
Alors les stratégies, à partir du moment où le risque épidémique est majeur, il va falloir effectivement, donc ce sera l'Agence régionale de santé qui définira les politiques de santé à mettre en place, prépositionne des moyens conséquents d'intervention et notamment de démostication sur le terrain. Et ces moyens pourront être finalement proportionnés au risque qui sera identifié suite à cette analyse.
Merci Fabien Touillot, délégué régional de Santé publique France, donc à La Réunion, d'avoir répondu à notre invitation. Et merci également à Louise Guérin pour la préparation. Vous l'avez certainement remarqué depuis ce matin, la rentrée est agitée également chez nous à Radio France. L'appel à une grève illimitée perturbe les programmes de plusieurs stations du groupe. Pierre Repère, bonjour.
Bonjour.
En l'occurrence, les syndicats rejettent plusieurs des réformes voulues par la présidente, Sybille Veil. Or, les discussions menées vendredi dernier avec la direction n'ont pas permis d'aboutir à la levée du préavis.
Oui, les syndicats dénoncent un appauvrissement général des grilles des différentes chaînes de Radio France, une situation due aux économies budgétaires imposées à répétition et qui devrait encore se poursuivre en 2026. Parmi les reproches adressés à la stratégie éditoriale de la direction, la situation des antennes d'ici inquiète. En mai dernier, déjà 41 stations locales avaient signé des lettres ouvertes pour dénoncer des prises de décision trop verticales et une radio de plus en plus centralisée depuis Paris au détriment de l'information locale. Des constats qui s'ajoutent à un contexte difficile alors que le changement de nom de l'antenne, passé de France Bleu à ICI, a été imposé par la direction et que les audiences sont en baisse. Les syndicats dénoncent également la réforme des modes de production à travers un projet d'hybridation des métiers de technicien et de réalisateur. Cette façon de faire des économies alors que les deux métiers diffèrent risquerait selon eux de peser sur la recherche éditoriale et la qualité des émissions concernées. Les inquiétudes sont encore nombreuses entre la fin de Move, devenue une radio numérique 100% musicale et dont les fréquences FM seront redistribuées, ou encore des équipes qui estiment que le reportage et l'investigation sont mises à mal. Pour les syndicats, ces économies de bout de chandelle répétées abîment la qualité des contenus proposés à l'antenne. Jeudi, lors de l'Assemblée Générale, les syndicats s'alarmaient de la sorte, je cite, « Si on ne fait plus de proximité, si on ne fait plus d'investigation, si on ne fait plus de reportage, demain, on a quoi à défendre contre la holding ?» Car le projet de Rachida Dati, un rapprochement entre Radio France et France Télévisions, largement rejeté par les salariés de la radio, devrait être étudié à nouveau à l'Assemblée début octobre.
Merci Pierre Repère. Je précise que les négociations entre la direction et les syndicats doivent reprendre à 14h. C'est le dernier exemple en date de cette stratégie désormais éculée de recourir à l'argument ultime de l'antisémitisme contre tous ceux qui contestent la politique sanglante de Benjamin Netanyahu et de sa coalition d'extrême droite. Dans une lettre datée du lundi 25 août, l'ambassadeur américain en France reprend l'argumentaire du Premier ministre israélien pour dénoncer, je cite, « l'absence d'action suffisante du président Emmanuel Macron contre l'antisémitisme », des accusations jugées inacceptables par le ministère français des Affaires étrangères qui a décidé donc de convoquer Charles Kouchner aujourd'hui même, une mesure rarissime entre alliés. Au risque d'ajouter encore à sa dérive autoritaire, l'autre argumentaire fallacieux généralement avancé par le gouvernement israélien consiste à répéter qu'il n'y a pas de journalistes à Gaza en l'occurrence. Quatre d'entre eux, trois hommes et une femme, ont bel et bien été tués ce matin dans une frappe sur un hôpital de Gaza qui a fait au total 15 morts. Deux travaillaient pour Reuters, une pour AP et un pour Al Jazeera. Il y a deux semaines déjà, on se souvient, que plusieurs salariés de la chaîne de télévision qatari avaient été mortellement visés. Voilà qui vient donc une fois de plus démontrer à quel point les forces armées israéliennes sont engagées depuis le début de ce conflit dans une véritable guerre de l'information. Tout est fait pour y discréditer le travail des journalistes, présentés systématiquement comme des soutiens du Hamas. Cette accusation fait d'ailleurs régulièrement le tour des réseaux sociaux ici en France, et ce même si plusieurs organisations professionnelles dont Reporters sans frontières ont bien identifié et dénombré 185 journalistes morts dans l'exercice de leur métier depuis le 7 octobre. Stéphane Père de la cellule d'investigation de Radio France est remonté jusqu'à la source israélienne de ces accusations relayées chez nous contre des journalistes à Gaza. Il s'agit d'une unité secrète au sein même du renseignement militaire israélien.
Son nom officiel, c'est la cellule de légitimation. Cette unité spéciale récolte tous les éléments possibles pour incriminer les journalistes à Gaza, prétendument liés au Hamas, trouver les moyens de discréditer leur travail. Interrogé par la cellule d'investigation, l'armée israélienne ne dément pas. Une source militaire nous parle d'une équipe de recherche créée il y a 2 ans au sein de la direction du renseignement, sans autre précision.
Anas Sharif, in kashafat haqiqatuka.
L'homme que vous entendez parler, c'est Avishai Adrae, le porte-parole de l'armée israélienne en langue arabe. Dans cette séquence du 24 juillet, il utilise des éléments déclassifiés, des photos, des captures d'écran, dont des documents comptables amenés par la cellule de légitimation. Sa cible, Anas al-Sharif, journaliste vedette qu'on voyait tous les jours sur la chaîne Al Jazeera. Pas un vrai journaliste, affirme ce porte-parole, mais un bras armé du Hamas jusqu'en 2017. Ce que conteste l'un des chefs éditoriaux d'Al Jazeera, que nous avons pu joindre au Qatar, près de 15 jours après cette vidéo en tout cas, avec 4 autres journalistes d'Al Jazeera, Anas al-Sharif est tué lors d'une frappe. C'est le média israélien Plus 972 qui est le premier à révéler l'existence de la cellule de légitimation. Meron Rapoport est son rédacteur en chef.
Cette cellule avait pour tâche de récolter des informations qui peuvent criminaliser cette journaliste, et peut-être cette information était plus tard utilisée pour attaquer.
Interrogée par Radio France, une source militaire répond. Elle affirme que la cellule de légitimation ne participe pas à la désignation des cibles à frapper, encore moins de journalistes. Israël n'a autorisé aucune enquête internationale indépendante permettant d'éclaircir la mort des journalistes à Gaza et encore moins les preuves apportées par la cellule de légitimation les désignant comme terroristes.
Après avoir déroulé le tapis rouge à Vladimir Poutine, puis invité Volodymyr Zelensky, une délégation européenne, à le rejoindre à la Maison Blanche, les efforts diplomatiques de Donald Trump pour mettre fin à la guerre en Ukraine semblent décidément bien laborieux malgré les volontés affichées par Moscou et Kiev de parvenir à un accord de paix. Le fracas des armes n'a toujours pas cessé sur le front. Un champ de bataille permanent où la vie s'efface à mesure que les troupes de l'envahisseur avancent appuyées par des assauts de drones constant, car ces derniers mois, c'est vrai que l'armée du Kremlin a totalement modifié sa stratégie militaire. L'utilisation massive jusque-là de l'artillerie et des blindés a été supplantée sur le terrain par les drones, à la fois plus précis et moins coûteux. Les deux camps d'ailleurs en réalité en font désormais un usage intensif, de sorte que la guerre a comme changé de visage. Nos envoyés spéciaux, Boris Loumagne, Jérémy Tuil et Yachar Fazilov, se sont rendus à quelques kilomètres du front le plus actif du pays, dans la région de Donetsk. C'est là qu'ils ont rencontré des soldats d'une brigade spécialisée justement dans les drones. Reportage.
Dans une petite pièce de 10 mètres carrés, devant nous, plusieurs écrans retransmettent les images du front, filmées en direct par 6 drones différents.
Là, par exemple, regardez, c'est le village de Katerinivka. Les pilotes de drones sont en train de contrôler ce bâtiment. Ils pensent que l'ennemi s'y cache.
Sur l'écran, un des drones muni d'une grenade s'approche d'une maison en ruine. Le commandant Sarmat commente l'image sobrement.
Et voilà, le drone vient de larguer l'explosif. Pas sûr à 100% qu'on ait tué quelqu'un, mais il faut frapper constamment.
Oui, il faut frapper des petits groupes de fantassins qui tentent de percer la ligne de front. Et ça aussi, c'est une nouveauté, parce qu'en fait, actuellement, il y a tellement de drones dans le ciel qu'il est impossible pour les Russes de mener des attaques massives. Elles seraient tout de suite repérées et annihilées.
Les petits groupes, c'est un plus pour eux. Ils sont plus agiles et moins visibles.
Ils avancent par deux ou trois soldats. Et même parfois, on a vu un seul soldat qui se déplaçait à découvert avec juste une cape de protection contre les détections thermiques.
Ensuite, ces petits groupes russes installent de nouvelles positions dans le dos des Ukrainiens pour les prendre à revers.
L'efficacité de cette tactique est évidente. Il n'y a qu'à regarder les cartes. Le mois dernier, on a reculé sur beaucoup de zones du front. L'ennemi arrive sans arrêt.
Et oui, les drones ont complètement rebattu les cartes. Prenez les chars d'assaut, par exemple. Aujourd'hui, en première ligne, ils ne sont quasiment plus utilisés.
Les drones kamikazes chassent les engins blindés qui ne peuvent plus atteindre la ligne de front. Donc aujourd'hui, les gros assauts avec des tanks sur le front, de fait, c'est impossible.
Enfin, l'artillerie, elle non plus, n'est plus adaptée à ces petits groupes mobiles. Un obus touche sa cible dans 20% des cas, quand un drone, lui, l'atteint 8 fois sur 10.
Un reportage dans le Donbass, donc signé Boris Loumagne. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi ensoleillé sur la majeure partie du territoire, même si quelques averses éparses pourront arroser ça et là les Pyrénées, le littoral méditerranéen. Quant aux températures, elles afficheront entre 23 et 34 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Axel Dubois. Et pour cause de grève, pas de journal à 18h.